Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver en direct depuis la Maison de la Radio. L'économie en proverbe, c'est toute cette semaine dans Entendez-vous l'écho. Aujourd'hui, mieux vaut règles que rentes.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Mieux vaut règles que rentes. Pour dénicher l'origine de ce mystérieux dicton, nous avons troqué la casquette de l'économiste pour celle de l'enquêteur. Une investigation minutieuse qui nous a menés dans le sud-ouest de la France à la fin du XVIe siècle. C'est là, dans un château de Gascogne, que nous avons retrouvé Montaigne penché sur le premier livre de ses essais. Le philosophe est alors plongé dans une vaste réflexion sur l'épargne et la dépense. Et si la richesse était affaire de croyance ? C'est la question que nous allons poser à nos trois invités. Il est 14h, passé de 1 minute sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons examiner la pensée économique de Montaigne en compagnie de Philippe Dezan, professeur de littérature française à l'Université de Chicago, avec nous depuis le Colorado, Martial Poirson, professeur d'histoire culturelle à Paris 8, et Isabelle Guérin, économiste, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
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 Un immense merci d'être avec nous aujourd'hui. Et d'abord, à tout seigneur, tout honneur, commençons par la langue de Montaigne.
La plupart des ménagers estiment horrible de vivre ainsi en incertitude et ne s'avisent pas, premièrement, que la plupart du monde vit ainsi. Combien d'honnêtes hommes attendent tous les jours de la libéralité du ciel ce qu'il faut à leur dîner ? Secondement, ils ne s'avisent pas que cette certitude sur laquelle ils se fondent n'est guère moins incertaine et hasardeuse que le hasard même. Je vois d'aussi près la misère au-delà de 2000 écus de rente que si elle était tout contre moi. Car outre ce que le sort a de quoi ouvrir sans brèche à la pauvreté au travers de nos richesses, je trouve que par diverses causes, l'indigence se voit autant ordinairement logée chez ceux qui ont des biens que chez ceux qui n'en ont point. Et qu'à l'aventure, elle est aucunement moins incommode quand elle est seule que quand elle se rencontre en compagnie des richesses. Elles viennent plus de l'ordre que de la recette. Et me semble plus misérable un riche, malaisé, nécessiteux, affaireux, que celui qui est simplement pauvre.
Les richesses viennent plus de l'ordre que de la recette. Voilà la phrase qui a inspiré notre proverbe du jour. Mieux vaut règles que rentes, Philippe Dezan.
Oui, tout à fait. Donc cette phrase assez célèbre chez Montaigne, mieux vaut règles que rentes, est en fait assez tardive, puisque ce chapitre effectivement a été écrit pour l'édition de 1580, mais cette addition, Donc, elles viennent plus de l'ordre que de la recette, a été ajoutée après 1588, c'est-à-dire environ 20 ans après le début de la rédaction des essais. Et dans ce même chapitre, ce qui est intéressant pour donner un peu le contexte à cette phrase, on s'aperçoit ensuite que Montaigne divise lui-même sa vie en trois périodes distinctes. Ces périodes sont liées à la possession ou non d'argent. C'est donc dans son rapport à l'argent que Montaigne définit sa propre existence, des années 1560 à 1590. Une première époque, nous dit-il, où n'ayant autre moyen que fortuite, il dépendait des autres, totalement. Montaigne considère cette première jeunesse comme la plus belle de sa vie, précisément, je le cite, parce que sa dépense se faisait d'autant plus allègrement et avec moins de soin qu'elle était toute en la témérité de la fortune. Et Montaigne de conclure, je ne fus jamais mieux. Cette insouciance économique permit au jeune homme d'échapper à toute préoccupation pécuniaire et donc d'éviter ce qu'il appellera, dans tous ses essais, la maladie de l'avarice.
Et ça va être suivi par une seconde période, Philippe Dezan, où au contraire, Montaigne va accumuler de l'argent. Exactement. Et il aura un regard assez négatif a posteriori sur cette période.
Voilà, c'est ce qui s'appelle cette seconde forme, ça a été d'avoir de l'argent, nous dit-il. Durant cette période, Montaigne mit de côté un petit pécule important et se corrompit dans le vil processus d'accumulation du capital qui le conduisit à la thésaurisation, mot très important à la Renaissance. C'est cet état immoral, selon lui, qui le mena à ne plus parler de l'argent, je le cite, qu'en mensonge, et son existence ne fut plus réglée que par sa boîte. Le même terme plié. Allais-je en voyage, dit-il, il me semblait être jamais suffisamment pourvu, et plus je m'étais chargé de monnaie, plus aussi je m'étais chargé de crainte, tantôt de la sûreté des chemins, tantôt de la fidélité de ceux qui conduisaient mon bagage, duquel, comme d'autres que je connais, je ne m'assurais jamais assez si je ne l'avais devant mes yeux. Laissais-je ma boîte chez moi, combien de soupçons et pansements épineux et qui plus est, incommunicables. On voit bien donc que dans cet moment de soupçons, de la boîte de Montaigne à la cassette d'Harpagon, il n'y a qu'un pas. L'argent devient une obsession qui engendre le soupçon et le doute envers ses proches.
On va revenir sur ce point, Philippe Dezan, mais alors, qu'est-ce qui définit effectivement la troisième partie de la vie de Montaigne ?
Alors, la troisième partie nous l'explique. Le voyage, nous dit-il, détournèrent l'attention, son attention à l'avarice. Il remarque ainsi, je le cite, que le plaisir de certains de voyages de grandes dépenses a mis au pied cette sotte imagination qu'était l'avarice. On peut même aller jusqu'à affirmer que le célèbre voyage en Allemagne et en Italie aurait pu servir de thérapie à cette nouvelle maladie qui l'affligeait avec l'âge, non pas la maladie de la pierre, mais la maladie de l'avarice. Son périple en Italie et en Allemagne, durant 17 mois, résulta en une ponction sensible de son épargne, mais cette ponction fut libératrice.
On entend bien, Philippe Dezan, que l'inspiration qu'a représenté la réflexion de Montaigne sur la dépense pour notre proverbe du jour, mieux vaut règle que rente, mais c'est aussi un proverbe qui est un proverbe populaire, Martial Poirson.
Oui, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que à cette époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, on assiste à une circulation entre ce qu'on appelle aujourd'hui culture savante et culture populaire, et qu'effectivement, ce qui ensuite est attribué à des auteurs de référence qui constituent ensuite des principes d'autorité, circule très largement et qu'il y a une sorte de porosité entre les deux. Et ce que je trouve intéressant dans ce proverbe, donc qui est attribué à la région de Gascogne et sur lequel on peut faire des recherches de type ethnographique à la manière des folkloristes du 19e siècle, c'est qu'elle présente aussi une autre vision de l'économie qu'on pourrait qualifier plutôt d'économie morale, d'inspiration populaire. Elle est en effet un appel à la modération, à la parcimonie. Elle traduit finalement cette vision des classes populaires qui est à la fois une grande anxiété à l'égard du dénuement, de l'indigence, on disait tout à l'heure avec Montaigne, et en même temps l'idée que les richesses corrompent, ce qui est exactement le parcours qui vient d'être d'ailleurs évoqué à propos du cheminement intellectuel de Montaigne. Donc il y a une sorte d'embarras des richesses qu'on retrouve notamment dans d'autres proverbes ou d'autres fables telles que le financier et le savetier, hein, qui montrent que finalement pour arriver au bonheur, il faut être dans un dénuement vertueux, beaucoup plus que dans une accumulation de richesses, à plus forte raison si ces richesses viennent d'une sorte de manne, et donc il y aurait une sorte de rapport inverse entre la liberté individuelle du sujet et les stratégies d'accumulation patrimoniale qu'elle représente. Et donc on est là dans une sorte de morale du sens commun, voire de morale du commun, qui tranche bien évidemment avec ce que sera l'économie politique à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, dans ce moment charnière où finalement elle cherche à se démarquer à toute force de ce bon sens populaire pour devenir une science.
Isabelle Guérin, Montaigne parle de se donner une règle qu'on peut interpréter effectivement comme cette idée d'épargner par prévoyance. Or, il s'agit là d'une injonction qui est souvent faite aux pauvres, alors même qu'avec le développement de l'économie de marché, il leur est aussi demandé de consommer. Donc on est face à une injonction contradictoire, Isabelle Guérin.
Oui, c'est vrai que c'est intéressant de voir à quel point ces réflexions assez anciennes trouvent un certain écho dans la période contemporaine avec effectivement cette injonction que vous venez de soulever. On a parlé des économies morales populaires qui sont ce qu'elles sont et elles peuvent évoluer en fonction des groupes sociaux, des périodes et des lieux. Mais on a aussi une économie morale du marché, du capital privé, des politiques publiques, des politiques de développement. Et si, pour faire bref et pour résumer un peu ce qui se passe dans la situation actuelle, c'est vrai qu'on a à la fois cette idée que le capitalisme contemporain, comme toujours, a besoin de débouchés, a besoin de consommateurs. Ces consommateurs ont longtemps été les classes moyennes des pays riches. Ils ont ensuite été, dans une période assez récente, les classes moyennes des pays émergents. Et puis, on voit déjà que ces débouchés arrivent quasiment à saturation. Donc, un certain nombre d'organisations sont en train d'imaginer quels pourraient être les marchés du futur. Or, les pauvres, ils ont cette particularité d'être pauvres, mais d'être très nombreux. Donc, ce qui fait rêver, si je peux me permettre l'expression, un certain nombre d'organisations et d'entreprises internationales qui voient là des gisements de consommation considérables. Et en même temps, En même temps, il y a toujours cette idée très ancienne que le bon pauvre est celui qui est capable de contrôler ses dépenses, de contrôler ses désirs, et qu'il est utile de l'inciter à épargner, avec là aussi tout un tas de dispositifs.
Alors, on est en...
divers et variés qui peuvent venir de pardon.
On était en train de vous perdre, Isabelle Guérin. Je vais rebondir sur ce que vous dites sur le contrôle, parce que c'est effectivement ce qu'on retrouve effectivement chez Montaigne. Philippe Dezan, l'idée de se donner une règle est centrale chez Montaigne.
Oui, absolument. Et le maître mot a été prononcé, c'est le mot modération. Il y a tout un chapitre qui s'appelle « De la modération », précisément chez Montaigne. C'est-à-dire qu'il reprend une expression, par exemple, de Mécène, qui disait à Auguste que l'opulence vient plutôt de la modération dans la dépense que de l'augmentation dans le revenu. Et c'est véritablement la position de Montaigne. Pour lui, c'est un terme relatif. C'est-à-dire que la richesse est relative. Il faut savoir exactement ce que nous pouvons obtenir au point de vue justement au point de vue revenu, et s'établir une règle. Et une règle, c'est le juste équilibre, pourrait-on dire, entre l'épargne et la dépense. L'épargne ne sert à rien si cet argent n'est pas dépensé. Et on ne peut pas dépenser de l'argent sans un minimum d'épargne. Voilà un peu la position de Montaigne qui, effectivement, fait l'aller et retour entre ces deux positions. Et ce mouvement qui va de l'un vers l'autre est pour lui une forme de modération qui est une règle. La règle de Montaigne, c'est cela. On doit connaître le juste milieu, pourrait-on dire, mais l'épargne n'est pas une finalité. L'argent possède une fonction de sociabilité très importante pour Montaigne, et le but de l'épargne, c'est la dépense, effectivement, pour Montaigne.
L'aisance et l'indigence dépendent de l'opinion d'un chacun, voilà ce qu'écrit Montaigne. Pour le philosophe, chacun est libre de se sentir riche ou pauvre, Martial Poirson ?
Oui, alors on voit bien qu'il y a effectivement toute une dimension de classe, même si le terme est bien sûr anachronique à l'époque dans cette appréciation. Ça a été dit, la richesse est relative, la pauvreté aussi, et le sentiment de frustration qui en découle à plus forte raison. Et ce qui est intéressant dans cette citation, c'est l'opposition qu'on retrouvera à travers l'histoire sous différentes formes entre une économie du revenu. On a parlé de l'épargne, mais les ressources, c'est aussi le revenu qu'on est capable de générer par un travail, et une économie de la rente qui est donc fondée plutôt sur un patrimoine. Et donc on trouve cette opposition canonique qui va ensuite commencer à se fissurer à la fin de l'âge classique et qui va opposer, en gros, si on veut simplifier les choses, une morale bourgeoise qui est à la fois une morale de l'administration rationnelle des richesses fondée sur le travail et une morale de type aristocratique qui est en train de commencer un long déclin qui durera plus d'un siècle, qui est une morale de l'ostentation, de la manifestation, de la dépense somptuaire et où finalement l'argent tel qu'il se manifeste au regard des autres constitue en fait un investissement d'image, en fait une source de prestige qui permet de tenir son rang. Et c'est très très important de voir que dans cette citation, on a ce condensé, ce raccourci entre donc les deux grands fondements de la conception de la richesse, ou en tout cas de l'enrichissement.
Qu'est-ce que ça signifie, Philippe Dezan, lorsque Montaigne estime que la richesse, comme la gloire, est affaire de croyance ?
Bon, c'est d'abord, pour lui, la coutume est importante. Donc, toutes les sociétés ont un rapport différent avec l'argent. On en parlera certainement un peu plus tard. Il est passionné par rapport aux cannibales, notamment, qui ont effectivement une sorte de cérémonie de potlatch, comme diraient les anthropologues modernes, où effectivement on accumule de l'argent pour le dépenser tout d'un coup, et durant cette cérémonie, on acquiert en même temps un statut social.
On va y revenir,
en
effet.
On ne peut pas couper, effectivement, l'économie de la sociabilité. Je crois que les deux vont de main. Et il met, effectivement, pourrait-on dire, l'économie au service de la société. C'est ça qui est fondamental chez Montaigne, que nous avons peut-être un peu perdu aujourd'hui.
Un mot peut-être, Philippe Dezan, sur le choix de Montaigne de rédiger les essais en français et non en latin. Qu'est-ce que ça nous apprend ?
Alors, c'est une question de public pour lui, effectivement. Il veut toucher un public le plus large possible. Il y a un déclin de la langue latine, effectivement, à partir de 1530, 1540 en France. Et ça va de soi, bien que sa première langue, comme on le sait, est le latin. Montaigne parle aussi bien le latin, peut écrire en latin comme il peut écrire en français. Et d'ailleurs, il écrit en gascon, pourrait-on dire. Il sera beaucoup critiqué, notamment au début du XVIIe siècle. Il est très à l'écoute des cultures différentes, non seulement en France, mais en Europe notamment, et c'est ça qui le fascine. C'est effectivement de voir d'une région à l'autre les différents modes de fonctionnement, les différentes coutumes, aussi bien économiques que sociales.
Et alors un autre économiste s'intéressera bien plus tard au lien entre la richesse et le bonheur. C'est Amartya Sen, récompensé par le prix de la Banque de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel en 1998. Au micro de France Inter, il revient sur son livre intitulé « L'idée de justice ». On l'écoute.
Un des points de départ que j'essaie de présenter dans ce livre, ce n'est pas de commencer là où Hobbes et Rousseau et Locke et John Rawls à notre époque ont commencé, c'est-à-dire en se posant la question « Quelle est la nature d'une société parfaitement juste ?» Mais de se poser une autre question « Quelles sont les plus importantes injustices que nous pourrions identifier et pour lesquelles il pourrait y avoir un accord sur le fait de nommer cela des injustices et de les éliminer ?» Et donc on n'a pas besoin des mêmes vision d'un monde parfaitement idéal ou parfaitement juste. Quand on parle de bonheur, c'est pas un indicateur majeur, mais certainement, être heureux, c'est quelque chose d'important. C'est même mieux que de ne pas être heureux. Donc, je dirais pas que les économistes ne sont pas intéressés sur ces questions de bien-être et de liberté.
Amartya Sen, chez nos confrères de France Inter, le 13 janvier 2010. Ses propos entrent en résonance avec la pensée de Montaigne, Isabelle Guérin. Pour Amartya Sen, ce n'est pas la richesse, mais la liberté qui fait la vie bonne.
Oui, effectivement, on peut tout à fait résumer les choses de cette manière. Donc, je crois que l'idée très novatrice chez Sen, même s'il l'emprunte à d'autres avant lui, c'est de considérer que la pauvreté ne peut être enfermée dans une vision strictement monétaire. Pour lui, la pauvreté, elle renvoie à des besoins purement physiologiques. Il faut accéder à la santé, il faut accéder à l'éducation, à l'alimentation, ce qui suppose des biens matériels et de la monnaie, certes, mais aussi des droits. Et il considère aussi, et c'est ça qui me semble fondamental, que la pauvreté renvoie aussi à des besoins qu'il qualifie de sociaux. Le respect de soi, participer à la vie de la communauté. Donc la participation politique est un élément central dans sa conception de la pauvreté. Il évoque aussi, il utilise cette expression « se montrer en public sans honte ». Et avec derrière ça, l'idée que les personnes ne sont pas uniquement mues par l'acquisition de biens matériels, mais que ce sont avant tout des êtres sociaux. Et que la comparaison avec autrui, avec celles et ceux qui nous entourent, est finalement centrale dans l'appréciation que chacune se fait de sa propre situation.
Comme chez Montaigne,
avec aussi l'idée que
chez Sen, la richesse ne peut pas être cantonnée à la richesse monétaire, Martial Poisson.
Oui, alors ce qui est intéressant dans la citation, dans l'extrait, c'est que Sen semble amalgamer Hobbes et Rousseau comme faisant partie donc de l'ancien monde de l'économie classique, alors qu'en fait Rousseau est très proche de sa position. Il y a un texte qui est demeuré longtemps à l'état de manuscrit de Rousseau, qui est en fait le troisième discours, qui s'appelle « Sur les richesses », qui est exactement cette théorie-là, en fait, où il explique qu'il y a effectivement tension entre ce qui est en train de se nouer autour de l'individualisme possessif, donc cette conception de l'enrichissement personnel comme reposant sur des stratégies de marché qui doivent se faire indépendamment de tout principe de socialisation, et donc il y a une sorte de désencastrement de l'économie dans le marché, et Rousseau va complètement contre cette vision-là, lui-même d'ailleurs qui par sa vie a mis en scène en tout cas un vœu de pauvreté sur une base qui est tout à fait différente de celle de la chrétienté à l'époque, et qui explique que il n'est de richesse que dans le cadre d'une relation sociale, d'un lien dont la monnaie peut être à la fois le vecteur et l'élément de dissolution. Mmh. Ce qu'elle est devenue finalement historiquement. Et chez Sen, donc, on retrouve cet élan-là et cette sorte de réencastrement, finalement, de l'économie dans le social.
Alors, quand Amartya Sen définit le développement comme, je cite, un processus d'expansion des libertés individuelles substantielles, qu'est-ce que cela signifie concrètement, Isabelle Guérin? Est-ce que cela passe par l'épargne? Et peut-être qu'il faut là préciser les formes, les autres formes que prend l'épargne dans les pays en développement.
Alors, il y a vraiment cette idée fondamentale chez Sen de liberté réelle. C'est-à-dire que ce qui importe, c'est pas ce que les gens ont, mais c'est ce qu'ils peuvent en faire, que ce soit des ressources matérielles ou que ce soit des droits. Alors, je suis pas sûre qu'il se soit vraiment prononcé sur la question de l'épargne, mais on peut tout à fait élargir la conception qu'il propose à cette question de l'épargne. comme ça a été évoqué précédemment, il y a toujours eu au cours de l'histoire cette idée qu'il faut inciter les pauvres à épargner, puisque un pauvre qui épargne va devenir moins pauvre, en quelque sorte. Depuis un certain nombre d'années, cette idée résurgit, avec des résultats qui sont quand même assez décevants, tout simplement parce que on reste dans une vision extrêmement étroite de l'épargne, de la liquidité monétaire que l'on va déposer dans le système bancaire, alors qu'en fait, ce que l'on observe, c'est que dans un certain nombre de contextes, y compris dans un contexte comme la France d'ailleurs, les personnes vont avoir des stratégies extrêmement variées, sophistiquées, de précaution, qu'il s'agisse de se protéger contre les aléas du quotidien ou de préparer l'avenir, mais que pour diverses raisons, ces formes de précaution vont prendre des formes qui ne sont pas monétaires. Ça peut être des biens qui ont une valeur non seulement d'échange, mais surtout une valeur d'usage. Les bijoux dans un certain nombre de pays d'Asie, le petit bétail dans un certain nombre de pays africains, des tissus précieux, comme on observe dans un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest. Ça peut être aussi ce qu'on peut appeler des investissements sociaux, c'est-à-dire que dans un contexte où le lien est plus important que le bien, soit pour des questions identitaires, soit pour des questions purement matérielles, quand vous n'avez pas de protection sociale, la meilleure protection que vous puissiez avoir, c'est le fait d'avoir un réseau social qui vous soutient en cas de nécessité. Et donc épargner, ça va prendre la forme d'injecter la moindre liquidité ou le moindre surplus dont vous disposez dans ce réseau social, qui, dans une période ultérieure, pourra en retour vous protéger à votre tour.
Martial Poisson, peut-être sur cet investissement dans un capital social que l'on trouve dans les pays en développement.
Oui, enfin surtout dans cette exhortation à l'épargne vertueuse chez le pauvre, je crois qu'il y a quand même possiblement, c'est une des lectures idéologiques possibles, quand même la résurgence d'une forme de vision un peu paternaliste et surplombante. Et on voit bien que dans les moments où les inégalités se creusent, ce qui est le cas de l'époque de la citation qui nous a réunis aujourd'hui et ce qui est le cas de l'époque actuelle, voire les dernières études sur l'évolution du capital, eh bien on retrouve ce discours qui fait retour selon lequel le pauvre, pour s'en sortir, doit faire preuve de mérite et de vertu, c'est-à-dire en fait de parcimonie et en même temps être aussi un consommateur moderne, ça a été évoqué. Donc il y a une sorte de vision là qui participe d'une politique, d'une certaine façon, de la gestion de l'épargne, en tout cas de l'épargne populaire, qu'on peut tout à fait analysé comme une résurgence d'une certaine façon de cette vision qui s'est construite au XIXe siècle autour de la naissance du prolétariat moderne.
Vous y voyez l'écho de la pensée de Montaigne, Philippe Dezan, vous qui êtes un grand spécialiste de Montaigne.
Oui, bien sûr, au XVIe siècle naît véritablement l'individu, le plus grand historien de l'histoire de l'art à la Renaissance, Jacob Burckhardt, a écrit que la plus grande invention de la Renaissance était ni la boussole, ni la poudre à canon, ni effectivement l'imprimerie, mais la découverte de l'individu. Et Montaigne s'intéresse effectivement au rapport entre les pratiques individuelles et la société. Et on pourrait voir chez lui effectivement une critique de la spéculation individuelle qui se fait toujours au détriment du reste des membres de la société. En ce sens, l'importance de l'avarice et de la thésaurisation et la critique de l'avarice à la Renaissance pourrait aussi être liée à cette naissance de l'individu. La fonction sociale de l'argent, qui est de faciliter la circulation des biens, serait alors détournée au profit d'une jouissance toute personnelle. Il faudrait donc créer, selon Montaigne, je crois, des mécanismes économiques nouveaux afin de pallier ce phénomène de thésaurisation. C'est par exemple le cas du crédit, qui connaît une ampleur considérable à la Renaissance, précisément de pair avec la thésaurisation. En effet, le crédit, comme le théorise certains, donne un élan nouveau aux opérations financières et permet de contrecarrer le problème de la relative inertie de la monnaie métallique. On pourrait même avancer, peut-être, que l'économie de la Renaissance serait résumée, effectivement, en une hésitation tout à fait moderne, profonde, entre le crédit et l'épargne. Une hésitation où on ne peut pas condamner l'un sans tomber dans le piège de l'autre, pourrait-on dire. Et c'est effectivement cette modération, cet aller-retour entre le crédit et l'épargne auquel Montaigne s'intéresse et qui le fait écrire, à mon avis.
Ce que l'on comprend bien aussi, c'est qu'à travers la consommation ou l'épargne se construisent des normes de classe. C'est notamment ce que l'on peut entendre dans cet extrait du film Germinal de Claude Berry.
C'est encore cette femme avec ses deux enfants qui revient. Ma fille, remplis ton petit office.
Honorine, va donc chercher le paquet dans l'armoire. Merci bien, mademoiselle. Vous êtes tous bien bons. Pauvres mignons. Sont-ils pas lourds d'être allés au froid? Vous n'avez que ces deux-là. Oh, madame, j'en ai sept.
Sept enfants? Mais pourquoi? Bon Dieu.
C'est beaucoup.
Vous travaillez depuis longtemps aux mines?
Moi, je suis descendue jusqu'à 20 ans. J'ai arrêté quand j'accouchais. La deuxième fois, quand je me suis mariée. J'avais assez de besogne à la maison, mais... du côté de mon mari, ils sont là-dedans depuis des éternités. Là, il va avoir bien chaud. Les pauvres mignons. Merci beaucoup, c'est bien. Et on est tellement à court. Si on avait une pièce de 100 sous seulement.
Non, ça n'est pas dans nos habitudes, nous ne pouvons pas.
La compagnie vous donne le loyer et le chauffage, bien sûr.
Oui, madame, on nous donne le charbon. Et le loyer n'est que de 6 francs par mois. Ça n'a l'air de rien, mais souvent c'est dur à payer. Ce mois-ci, on n'a plus rien.
Il faut faire des économies, ma bonne. Comme nos paysans, il ne faut pas tout boire.
Vous avez peut-être reconnu Miu Miu qui joue ici le rôle de la femme de Maheu le mineur dans le film Germinal, tiré bien sûr du roman de Zola. Il faut faire des économies, ma bonne, comme nos paysans, dit Monsieur Grégoire, actionnaire de la compagnie qui est propriétaire de la mine. Que vous inspire cet extrait, Martial Poisson?
Là, comme souvent, effectivement, chez Zola, on retrouve mise à nu et portée presque à une précision chirurgicale, l'opposition de classe, finalement, qui se joue à travers cette question de l'épargne. On est dans une époque tout à fait différente de celle qui était évoquée tout à l'heure à propos de Montaigne, puisque tout à coup, l'accumulation primitive du capital s'est faite et en train de se faire, et même largement avancée au moment où est publié Germinal, le livre, et pas le film, évidemment. Et donc là, tout à coup, on voit d'une façon totalement désinhibée et décomplexée cette vision du patron qui exhorte son ouvrier à faire preuve de parcimonie, d'ascétisme, de discipline dans le foyer. Il y a aussi une logique, il y a une logique de classe, mais il y a aussi une logique de genre, hein, puisque là on a la parole d'une femme qui est en dernier ressort la gestionnaire du foyer. Hein, c'est à elle qu'il revient au 19e siècle de tenir les cordons de la bourse et d'optimiser le fruit de l'aliénation du travail de l'homme et des enfants d'ailleurs la plupart du temps, ce qui est le cas dans le film. Donc on retrouve absolument tout ça, et en même temps peut-être aussi l'idée selon laquelle cet argent qui est réparti d'une façon tout à fait aléatoire et arbitraire au sein de la société, rarement en fonction du mérite, même si c'est ça la valeur centrale qui permet de rendre acceptable ces injustices en apparence, pourrait être aussi un opérateur de transformation sociale, en fait, hein, et que donc on demande à l'ouvrier d'épargner, mais en même temps, jusqu'à un certain point, puisque d'une part, il faut aussi qu'il soit le consommateur qui lui permet également d'épargner, et en même temps, il faut pas qu'il participe à une redistribution des richesses, ce que effectivement l'économie monétarisée, beaucoup plus que au XVIe siècle, permet, en fait.
Cette demande faite aux pauvres d'épargner, elle interroge Isabelle Guérin, et notamment ce qu'on a pu constater dans la théorie économique, c'est qu'il y avait vraiment deux visions qui s'opposaient entre la nécessité pour les plus pauvres de consommer pour relancer l'économie locale, par exemple, ou au contraire d'épargner pour avoir finalement un matelas de sécurité.
Oui, on a vraiment cette injonction contradictoire qui est extrêmement présente aujourd'hui, avec, comme ça a déjà été évoqué, d'une part, l'idée que les populations pauvres, notamment dans les pays du Sud, vu leur nombre, constituent un gisement de clientèle considérable, et donc avec tout un tas d'initiatives visant à leur vendre des lampes solaires, des fours à faible combustion, des latrines améliorées, alors tout un tas, je pourrais multiplier la liste, tout un tas de biens qui sont supposés améliorer leur bien-être, mais qui ne sont pas toujours conçus de manière appropriée, qui sont décalés pour des raisons sociales, pour des raisons morales, qui ne fonctionnent parfois mal, notamment lorsqu'on s'intéresse uniquement aux services en bout de chaîne et non pas aux infrastructures. Par exemple, offrir des latrines, inciter les pauvres à s'équiper de latrines sans leur proposer de système d'assainissement, leur proposer des assurances santé sans améliorer les services de soins. Donc tout ceci provoque malgré tout un certain nombre de résistances. Donc on voit déjà que les politiques d'incitation à la consommation en elles-mêmes sont problématiques.
Même sauf si c'est de l'économie locale qui est ainsi relancée, Isabelle Guérin. Tout dépend de ce qui est consommé.
Alors, effectivement, vous avez raison de souligner ce point, sauf que dans un certain nombre de cas, effectivement, ce n'est pas le cas. Donc, il faut effectivement se garder de généralisation hâtive, et il y a effectivement certaines initiatives qui s'inscrivent plutôt dans une politique de régénération des territoires et de dynamisation de la richesse locale. Mais force est de constater, malheureusement, que dans un certain nombre de cas, on est plus dans des biens qui, non seulement ne sont pas produits localement, mais en plus ne répondent pas, pour les raisons que j'ai évoquées, aux aspirations locales. Et à cela se rajoute l'injonction à épargner, qui est effectivement contradictoire.
Mieux vaut règles que rentes, c'est notre proverbe du jour, inspiré par une réflexion de Montaigne, le philosophe du XVIe siècle. Peut-il nous aider à repenser notre rapport à l'argent? Élément de réponse dans un instant, mais d'abord le chanteur Chassol nous rappelle l'importance de la règle.
Les règles, l'écriture figurée et la grammaire du jeu constituent une sorte de langue secrète extrêmement perfectionnée qui participe de plusieurs sciences et de plusieurs arts, particulièrement des mathématiques et de la musique. Cette langue est en mesure d'exprimer le contenu et les résultats de presque toutes les sciences et d'établir des rapports entre eux. Le jeu des paires de vers se pratique donc avec toute la substance et toutes les valeurs de notre culture. Il joue avec elle, un peu comme au temps où florissaient les arts. Un peintre a pu jouer des teintes de sa palette. Ce que l'humanité a produit au cours de ses ères créatrices dans le domaine de la connaissance, des grandes idées, des œuvres d'art, ce que les périodes de spéculation érudite qui suivirent ont ramené à des concepts et transformé en patrimoine intellectuel. Tout cet immense matériel de valeur spirituelle, le joueur de paires de verres en joue comme l'organiste de ses orgues, mais les siennes sont d'une perfection presque inconcevable. Leurs claviers et leurs pédales explorent le cosmos spirituel tout entier. Leurs registres sont pour ainsi dire sans nombre, et théoriquement cet instrument permettrait de reproduire dans son jeu tout le contenu de l'univers. Les règles, l'écriture figurée et la grammaire du jeu constituent une sorte de langue secrète extrêmement perfectionnée qui participe de plusieurs sciences et de plusieurs arts, particulièrement des mathématiques et de la musique. Cette langue est en mesure d'exprimer le contenu et les résultats de presque toutes les sciences et d'établir des rapports entre eux. Le jeu des paires de vers se pratique donc avec toute la substance et toutes les valeurs de notre culture. Il joue avec elle, un peu comme au temps où florissaient les arts. Un peintre a pu jouer les teintes de sa palette.
Les règles de Chassol sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Philippe Dezan, Martial Poirson et Isabelle Guérin sont toujours avec nous pour vérifier l'adage inspiré de Montaigne, mieux vaut règles que rentes.
Vous écoutez France Culture, Entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
Si Montaigne prône la règle plutôt que la dépense, c'est parce qu'il fait le constat, en cette fin du XVIe siècle, d'importantes mutations au sein de la société. L'économie prend une place de plus en plus centrale, au détriment peut-être des valeurs nobiliaires, Philippe Dezan.
Oui, absolument. Vous avez ce qui se passe à la fin du XVIe siècle. N'oublions pas que Montaigne a des prétentions nobiliaires. Il appartient à la petite noblesse. Il a été lui-même bombardé au début des années 1570 dans cette petite noblesse. Il vient d'une famille de riches marchands qui ont réussi effectivement localement, qui ont pris le pouvoir politique. Montaigne sera lui-même maire de Bordeaux durant deux termes. Donc il connaît bien la situation, l'impact de l'économie locale, effectivement, sur la perturbation, pourrait-on appeler de cette façon, des valeurs nobiliaires qu'il défend, tout en reconnaissant que ces valeurs sont d'une autre époque, d'un autre âge. Donc il y a la réalité qui est individuelle, qui est matérialiste, qui est économique, qui est capitaliste. Et d'un autre côté, il y a la culture, dans la longue durée, pourrait-on dire, des valeurs nobiliaires qu'il essaye de remettre au premier plan, tout en acceptant, en même temps, le fonctionnement de la société de la fin du XVIe siècle, qu'il connaît très bien, comme maire de Bordeaux.
Et c'est dans ce contexte qu'il va effectivement critiquer l'accumulation du capital, ce qu'on appelle donc la thésaurisation, une critique que l'on retrouvera un siècle plus tard dans l'Avare de Molière. On n'a pas pu résister à l'envie de vous faire entendre le monologue final d'Harpagon, incarné ici par Louis de Funès.
Au voleur, au voleur, assassin, au meurtrier, justice, justicier, je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent, qui peut s'être, qu'est-il devenu, où est-il, où se cache-t-il? Ah, que ferai pour le trouver, au courrier, ou ne pas courrier, n'est-il point là, n'est-il point ici, qui est-ce? Arrête, rends-moi mon argent, coquin! Oh, c'est moi! Mon esprit est troublé, et j'ignore où je suis, qui je suis, ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent! Mon pauvre argent! Mon cher ami! On m'a privé de toi, et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support. Ma consolation, ma joie, tout est fini pour moi. Je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. C'en est fait. Je n'en vis plus. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré.
Je suis mort, je suis enterré, Louis de Funès dans l'Avare, un film réalisé par Jean Giraud en 1980. La critique de Molière rejoint celle de Montaigne, Marcel Poisson. On retrouve cette même idée d'une avarice qui brise le lien social, qui rend misanthrope.
Alors la grande puissance de Molière, ici comme dans beaucoup de sujets, c'est son ambivalence. C'est-à-dire qu'effectivement, le personnage de l'avare, dans un premier niveau de lecture, est totalement ridicule. Il est attaché de façon maladive à cette façon de stériliser les richesses en enfouissant la cassette. Donc il est le représentant de l'ancien monde, celui de la thésaurisation monopolistique face au nouveau monde. La fin du XVIIe siècle, on est quand même dans une nouvelle configuration où la circulation monétaire s'intensifie, où la prohibition du crédit, qui était donc au fondement de la morale chrétienne, s'est assouplie à la faveur de du développement du protestantisme. C'est la grande thèse de Weber. Donc tout à coup, l'économie va pouvoir prendre son essor. Et il est en même temps une figure de la jouissance libidinale. En fait, il y a une sorte d'économie libidinale dans cette scène qu'on sent très très bien, puisque à la fois il est dans un désespoir total et en même temps dans un surinvestissement affectif et même quasiment sexuel autour de la question de l'argent. Donc il pose la capacité qu'a l'argent de créer des formes de jouissance, et il va décentrer le débat sur richesse et bonheur sur un autre terrain qui est celui de l'économie des passions. Et c'est précisément l'objet les premiers théoriciens de l'économie, quelques dizaines d'années plus tard, au début du XVIIIe siècle, avec des gens comme Bernard Mandeville notamment, vont essayer de dénouer, en essayant de découpler justement cette relation entre les passions et l'argent, en créant donc une économie de l'intérêt qui est censée justement rationaliser ce rapport et étouffer ce potentiel de désordre social que génère la jouissance des richesses.
La passion que provoque l'argent, on le disait au début de l'émission avec vous, Philippe Dezan, c'est quelque chose que Montaigne a vécu lui-même. Et avant lui, on retrouve cette critique de la thésaurisation chez Rabelais, par exemple.
Oui, absolument. Vous avez le personnage de Panurge, bien entendu, qui lui est remet en circulation, notamment dans les troncs des églises. Il saisit cet argent qu'il distribue à la population parisienne. Il fait circuler l'argent de nouveau. Donc vous avez une critique très forte de ces mécanismes économiques qui sont incompris, bien entendu, durant tout le XVIe siècle, puisque nous sommes dans le domaine de l'imaginaire économique plutôt que de la réalité. Tout au long du XVIe siècle, et Rabelais parle également, Montaigne connaît un peu mieux les mécanismes à la fin du XVIe siècle, de ce qu'il appelle le malheur horrifique de l'économique. Et donc nous sommes dans des mécanismes, des phénomènes incompris encore. Le problème de l'inflation ne sera pas compris avant Jean Bodin, dans son discours à Monsieur de Malestroit à la fin du XVIe siècle. Durant le XVIe siècle, on voit l'inflation, la déflation, mais on ne comprend pas pourquoi.
Or, c'est précisément le fait de prévoir, l'acte de la prévision, qui donnera naissance, selon vous, à l'économie moderne, Philippe Dezan ?
Oui, absolument. C'est cette projection. Moi, j'appelle cela une prospective. Alors, il y a un moment très important au XVIe siècle, c'est le moment Machiavel. Machiavel vous dit que tout d'un coup, l'individu peut se permettre de contrôler 50% de son avenir. Avant, c'était Dieu, bien entendu. Ça aurait été un blasphème de penser qu'on pouvait soi-même prévoir quelque chose dans l'avenir. Maintenant, c'est devenu possible. Les sciences sociales, à partir de ce moment-là, sont tout à fait possibles, parce que ce sont des sciences prospectives qui permettent d'imaginer où l'on sera demain ou après-demain, et donc de prévoir des entreprises, de préparer un avenir qui nous appartient à 50%. Dieu reste encore responsable de 50% de nos actions, mais c'est ça qui permet véritablement à l'économie de se mettre en place. Alors la réforme, on l'a souligné, est en partie responsable Luther, effectivement, de ce nouveau mouvement économique et de la naissance de la bourgeoisie moderne, mais effectivement, nous sommes dans un devenir, une sorte de règles économiques qui se forment. On commence à concevoir la possibilité d'un devenir meilleur et de planifier, effectivement, la naissance du terme économie politique, qui permet de relier l'économie à la politique, effectivement, date du début, tout début, Simon Chrétien, en 1601, le premier traité d'économie politique. Les nations vont se préoccuper, on va dépasser les spéculations individuelles, et les États vont intervenir pour fonctionner, effectivement, prendre en main cette économie qui existe depuis 50, 60 ans au niveau des particuliers.
L'économiste se substitue à Dieu en ce qu'il est capable de prévoir, Martial Poisson.
Oui, il est capable de prévoir et il est capable de redistribuer les cartes. Donc c'est un opérateur des destins. Et un autre aspect canonique un peu de cette opposition entre thésaurisation et dépenses, qu'on retrouve aussi dans l'avare d'ailleurs, c'est cette capacité justement de la dépense et de la monnaie, non seulement à anticiper sur l'avenir, ça vient d'être dit, mais également à créer des liens sociaux, indépendamment des liens directs en fait, à créer une sorte de macro lien social. Et c'est ça d'ailleurs que de nouveau le libéralisme va essayer de détricoter, et que nous dit en creux Molière, puisque face à l'avare, il y a des jeunes premiers qui sont amoureux, qui revendiquent un amour sincère et authentique, considéré à l'époque comme naturel, et qui revendiquent également la capacité de dilapider le patrimoine, de dissiper le patrimoine. Et ça, c'est une autre idée très importante qui est à la charnière entre l'éthos de la bourgeoisie naissant et l'éthique de la noblesse en fin de droit, c'est cette posture du dissipateur, celui qui en fait est au-dessus des richesses et qui va se caractériser par un certain mépris justement de ces richesses, à tel point qu'il peut les galvauder, les donner, les céder à un tiers, faire profiter de ces largesses finalement toute une série de parasites. Et donc un autre personnage intéressant d'ailleurs de la comédie, c'est la figure de parasite, celui qui va se greffer sur ce ruissellement finalement d'une certaine façon des richesses, et qui va être capable donc de créer une dynamique de société qui n'existait pas dans ce monde figé de la thésaurisation monopolistique.
Cette critique de la thésaurisation qui existe chez Montaigne, on la retrouve également chez Keynes par exemple, qui appelait à euthanasier les rentiers. C'est l'idée qu'ils empêchent la circulation de la monnaie, à Martial Poisson.
Oui, alors oui et non. Donc cette phrase, elle a été très très débattue et discutée. Elle est évidemment d'une violence extrême. Bon, il faut rappeler qu'elle est un tout petit paragraphe un peu provocateur dans la théorie générale, et en même temps, elle est au centre d'une conception keynésienne qui va renverser justement complètement la perspective en disant que le moteur de l'économie, c'est pas, comme la loi de Sayle l'indiquait, l'offre qui crée sa demande, mais c'est au contraire la demande qui va entretenir l'offre. Et donc tout ce qui détourne les richesses existantes de ce cycle de production est considéré comme un ralentisseur de la croissance, et aussi, et c'est surtout ça qui explique la virulence de la citation, quelque chose qui va à l'encontre de cette vocation redistributive justement du cycle économique. À partir du moment où il y a des pôles de richesses stériles, rendues stériles, eh bien on est dans un système qui ne peut plus être vertueux, et où cet effet d'opérateur des destins que constitue la circulation libre de l'argent va plus pouvoir se produire, et qu'il n'aura pas non plus cet effet émancipateur sur les individus. Et en même temps, le paradoxe suprême, c'est que sous Keynes, on est dans une toute autre configuration, puisqu'on est dans une économie largement actionnariale et financiarisée, où en fait, finalement, la rente est un élément constitutif du capital. Mmh. Ce qui n'était pas du tout le cas au XVIIe siècle, ni même ensuite.
Alors revenons un instant au XVIe siècle, puisque Montaigne compare cette volonté d'accumulation qu'il constate dans la société dans laquelle il vit, au fonctionnement des sociétés découvertes en Amérique, qui, elles, nous dit-il, ne séparent pas l'économie et le social, Philippe Dezan ?
Oui, tout à fait. Pour lui, le Nouveau Monde est une sorte de lieu d'observation où il imagine une autre société possible qui aurait gardé des valeurs nobiliaires, pourrait-on dire, avec une économie communiste, où effectivement les biens sont partagés Il n'y a pas, d'après lui, alors on est aussi dans l'imaginaire bien entendu de thésaurisation, il n'y a pas d'avarice, et il définit, par exemple, il a dans le chapitre des coches une position extraordinaire où il parle de leur or et notre or. Et en fait, il établit une distinction qu'on retrouvera bien sûr au siècle, au 19e siècle chez Marx, entre valeur d'usage et valeur d'échange. C'est-à-dire que l'or, notamment, est tout en montre, nous dit Montaigne, les cannibales portent l'or sur eux, mais n'a aucune valeur d'échange, puisque nous sommes dans une économie plumassière. Ce sont les plumes qui ont de la valeur d'échange dans l'économie cannibale, pourrait-on dire. Et ça le fascine, parce qu'il s'aperçoit que même, effectivement, ce que nous, l'histoire de l'or et de la monnaie est si vieille que de l'Antiquité, que même dans ces sociétés-là, il y a des contre-exemples qui permettent effectivement d'avoir un rapport différent à l'argent et qui permettent une sociabilité. L'or, dans ce cas-là, est une sorte de parure qui permet de donner son statut. Et une des punitions, notamment des cannibales, quand ils font prisonnier un conquistador, c'est de le mettre à terre et de mettre donc dans sa gorge, de verser de l'or brûlant, qui est maintenant liquide, pour lui, on vous redonne votre or. Donc la circulation est totalement différente. Alors que le phénomène des conquistadors, c'est de prendre cet or pour le faire circuler différemment en Occident, donc lieu de circulation, donc à partir d'une économie privée. Et Montaigne a des phrases extraordinaires sur son analyse, effectivement, de l'économie du Nouveau Monde. Il n'y a pas de propriété, tout est partagé. Et pour lui, c'est un contre-exemple qui est essentiel pour... De façon réflective, donc de pourvoir sa propre société comme dans un miroir et critiquer les pratiques économiques de son époque.
C'est intéressant de comprendre que Montaigne voit dans le don, dans ces sociétés découvertes en Amérique, une nouvelle forme de noblesse. Je vous propose d'écouter un extrait de l'essai sur le don de Marcel Mauss.
Le lien que le don établit entre le donateur et le donataire est trop fort pour les deux. Comme dans tous les systèmes que nous avons étudiés, et même plus encore, l'un est trop lié à l'autre. Le donataire se met dans la dépendance du donateur. Le don est donc à la fois ce qu'il faut faire, ce qu'il faut recevoir, et ce qui est cependant dangereux à prendre. C'est que la chose donnée elle-même forme un lien bilatéral et irrévocable. Le donataire dépend de la colère du donateur, et même chacun dépend de l'autre. Don, donateur, chose donnée sont des termes à considérer relativement, avec précision et scrupule, de façon qu'il n'y ait aucune faute dans la façon de donner et de recevoir. Tout est d'étiquette. Ce n'est pas comme au marché où, objectivement, pour un prix, on prend une chose. Rien n'est indifférent. Contrat, alliance, transmission de biens, lien créé par ces biens transmis entre personnages donnant et recevant, cette moralité économique tient compte de tout cet ensemble.
Le don est ce qui permet de créer du lien, de faire société, même s'il n'est pas dénué de risques, Isabelle Guérin.
Oui, je pense que ce qui est intéressant dans les propos de Marcel Mauss, c'est à la fois... le fait que le don soit au cœur de la cohésion sociale, et en même temps son ambivalence, qui va rejoindre tout un tas de propos que l'on a déjà eus, ambivalence au sens où un certain type de don, de type potlatch, comme ça a déjà été évoqué, qui consiste à donner le maximum pour écraser en quelque sorte celui qui reçoit, celui ou celle qui reçoit, et qui renvoie quelque part à une certaine forme de générosité bienveillante ou de paternalisme, d'assistance, par exemple. On peut faire le parallèle entre les potlatchs des Indiens d'Amérique et l'assistance actuelle, qui consiste à donner en écrasant en quelque sorte le bénéficiaire. Et puis après, il y a un autre type de don que Marcel Mauss développe aussi longuement et qui peut être considéré comme aux origines d'une certaine forme de socialisme associationniste, notamment, et qui consiste à créer, à donner dans l'égalité. On donne et on reçoit. Avec cette idée que lorsqu'il y a égalité dans l'échange, alors on peut envisager des mécanismes de solidarité, d'entraide,
qui suppose l'existence d'institutions, Isabelle Guérin.
Ce qui suppose effectivement l'existence d'institutions, ce qui fait que le don va être source de hiérarchie ou source d'égalité, ce n'est pas du tout l'altruisme ou pas des participants, c'est surtout l'existence d'un certain nombre d'institutions dans les sociétés actuelles, l'État, mais aussi un certain nombre de mécanismes associatifs, coopératifs, ce qui suppose des législations adaptées et qui vont permettre de recréer ce lien et cette solidarité dont on a parlé tout au long de cette émission.
Sur cette question de l'ambivalence du don, Martial Poisson.
Oui, ce qui est très intéressant et ce que montre très bien Mauss dans ce texte fondateur, c'est qu'on est de nouveau dans une injonction contradictoire, puisque le don suppose une contrepartie, une réciprocité, et repose en même temps sur une compétition, une rivalité. Donc on est à la fois dans un système coopératif et dans une sorte d'agone symbolique, ce qui montre très bien que l'enjeu du don est de convertir la question de la richesse réelle et de l'économie réelle en économie symbolique. Et que l'efficacité performative justement de ces rituels, elle tient là encore, et ça nous ramène peut-être d'ailleurs aux origines de la citation qui était notre point de départ, sur une forme de détachement.
Mieux vaut règle que rente.
Voilà, donc l'enjeu c'est de montrer le maximum de détachement possible par rapport à cette richesse qu'on est capable de détruire, d'immoler, de magnifier, de céder à un tiers. Donc on est vraiment aux antipodes de la construction conceptuelle de l'économie occidentale, qui est au contraire fondée donc sur cette hypothèse de rationalité, sur cette individualité des comportements et sur des régulations abstraites par le marché qui est une sorte de substitut à la providence.
C'est cette richesse symbolique qui plaît, qui séduit particulièrement Montaigne, Philippe Dezan.
Absolument, oui, j'allais le dire, effectivement, c'est cette dématérialisation de la richesse et sa transformation avec le don, se donner à soi-même, Montaigne a cette expression chez lui, il parlait justement de son ami la Boétie, il disait « nous nous donnions l'un à l'autre ». Donc cette non-économie, cette économie primitive, permet à Montaigne effectivement de concevoir un autre mode de rapport qui ne serait plus pris par effectivement une logique économique matérielle, mais qui renvoie à un idéal nobiliaire qui est celui de la valeur perçue, qui est celui de l'ordre du symbolique, effectivement, qui est pour Montaigne bien supérieur à la matérialité qui est en train de régner à son époque.
On l'a dit, la question de l'épargne et de la richesse nous renvoie au rôle de l'État et des pouvoirs publics. Montaigne a été maire de Bordeaux à la fin du XVIe siècle, vous nous le disiez, Philippe Dezan, et il s'est battu pour que la justice, notamment, soit accessible financièrement aux pauvres.
Oui, absolument. Il y a un passage, nous avons un édit donc de la ville de Bordeaux en 1583, où Montaigne prend la défense des pauvres. Bon, il le fait pas trop souvent, il faut bien le reconnaître, mais c'est assez étonnant. Il se plaint qu'effectivement, il y a trois pouvoirs dans la ville de Bordeaux. Donc il y a les bourgeois, il y a les nobles et il y a les parlementaires. Le parlement de Bordeaux, donc les avocats et les juges. Et il prend position contre la noblesse et contre la bourgeoisie, en défendant les pauvres, en disant qu'effectivement le prix de la justice est bien trop élevé pour eux, et qu'il faut créer des mécanismes sociaux dans la ville pour effectivement assister les pauvres, et c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Il comprend très bien d'ailleurs, il le fait peut-être pour de mauvaises intentions, qu'effectivement, et d'autres le feront après lui, effectivement il faut apprendre à contrôler. C'est aussi Bottero dans son livre sur la raison d'État. L'État se doit d'intervenir, effectivement, pour être certain que les pauvres ne vont pas se révolter. Donc il faut créer une forme de richesse. Ça renvoie à la phrase dont nous parlons aujourd'hui. Effectivement, il faut apprendre que effectivement le bonheur peut se trouver avec ce que l'on possède. Rien de plus. Et peut-être que la définition de Montaigne, c'est « il faut apprendre à être heureux avec ce que l'on a ». C'est assez dérisoire, mais c'est certainement ce qu'il entend.
Mais ce qui peut sembler un petit peu choquant quand on sait que Montaigne était lui-même un anti, même si, comme vous le disiez, Philippe Dezan, il remet en question la période de sa vie où il a beaucoup accumulé du capital.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, pour lui, il est question, maintenant, il aime les conditions moyennes. Montaigne parle, je cite ici, par exemple, il y a une très belle citation, il dit « J'aime des natures tempérées et moyennes. L'immodération vers le bien même, si elle ne m'offense, elle m'étonne. » Voilà, donc cette condition moyenne, cet homme du milieu qu'est Montaigne, de la modération, du juste qui est au centre, on l'appellerait un centriste politique aujourd'hui certainement, permet de ramener vers le centre, effectivement, le plus grand nombre possible. Et pour lui, la fonction de l'État ou la fonction du gouvernement local, c'est effectivement de combattre les extrêmes, l'extrême pauvreté et l'extrême richesse, pourrait-on dire, pour attirer tout le monde vers ce juste milieu.
Sur la valeur symbolique, on peut revenir sur la valeur symbolique de l'or, notamment Isabelle Guérin, qui nous permet peut-être de tracer un parallèle entre l'utilisation de l'or dans le Nouveau Monde de Montaigne et l'utilisation de l'or dans l'Inde contemporaine.
Oui, on peut faire un parallèle tout à fait similaire avec ce constat que quand bien même on multiplie les injonctions pour que les populations pauvres déposent leurs maigres avoirs dans le système bancaire, cela ne fonctionne pas. Les formes d'épargne qui continuent de prévaloir, ce sont d'autres formes de richesse et qui ont, comme ça a déjà été dit, à la fois une valeur d'usage et d'échange. L'or en étant un bon exemple, on peut aussi prendre l'exemple de tissus, de petits bétails, etc. L'avantage considérable de l'or sous forme de bijoux étant que c'est à la fois un objet ostentatoire qu'on peut porter en cas d'événement particulier, c'est une quasi-monnaie puisqu'on peut le mettre en gage un peu partout, c'est un objet qui peut faire l'objet de spéculations, le cours de l'or ne cesse d'augmenter, alors c'est aussi une prise de risque. Mais voilà, pour toutes ces raisons, il est beaucoup plus rationnel, entre guillemets, pour les populations de prévoir l'avenir et de se protéger contre les aléas du quotidien en conservant de l'or plutôt qu'en déposant leurs avoirs liquides dans un compte bancaire.
On a beaucoup parlé de modération depuis le début de cette émission avec notre citation de Montaigne, mieux vaut règle que rente. Aujourd'hui, et peut-être plus encore depuis le déconfinement et depuis le confinement, la tendance est à la déconsommation. Est-ce qu'on peut voir dans cette volonté d'une plus grande sobriété cet impératif justement de Montaigne de se donner chacun à soi-même une règle, Philippe Deuzan?
Oui, alors la règle est un concept très important chez Montaigne. Il y avait notamment au Festival d'Avignon, avait pour thème il y a 2 ans le jeu et la règle. J'étais intervenu sur cette notion de règle chez Montaigne, où effectivement il ne faut pas confondre. Pour Montaigne, la règle peut toujours être changée. Les règles sont relatives par rapport à leur époque, et donc il est tout à fait normal que les États ou les gouvernements établissent des règles. Mais les règles ne sont pas faites pour durer très longtemps, elles doivent être sans cesse adaptées. Donc c'est donc là la définition de la règle chez Montaigne.
Et sur ce rapport à la déconsommation, peut-être un dernier mot, Martial Poirson, très rapidement, est-ce que c'est l'écho de Montaigne qui est encore parmi nous ?
Oui, alors je pense que là encore, on peut invoquer Rousseau qui dit que on ne peut pas demander de modération à celui qui chaque jour doit lutter pour sa survie en fait. Et donc je pense que cette question-là, elle est tout à fait relative au regard du monde contemporain puisque est très présente effectivement dans nos sociétés développées qui savent parfaitement qu'elles absorberont le choc économique d'une façon ou d'une autre se profile. Elle est peut-être moins évidente dans des populations qui sont dans un dénuement total. Moi, je trouve presque un peu, d'ailleurs, à titre personnel, problématique, finalement. Pour moi, c'est exactement du même ordre que l'appel à la parcimonie et à la bonne épargne qui était faite au 19e siècle par les patrons sur leurs ouvriers. On est encore dans une attitude un peu de surplomb, condescendante, où finalement, ceux à qui on demande d'être décroissants, c'est ceux qui n'ont pas encore bénéficié des bénéfices de la croissance. Et donc, l'effet de saturation qu'on peut ressentir dans nos sociétés qui sont en post-accumulation du capital, on peut peut-être pas en faire la règle précisément du monde aujourd'hui.
Donc, et vous avez raison de le souligner. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois, Martial Poirson, Philippe Deuzan et Isabelle Guérin, de nous avoir accompagnés tout au long de cette réflexion sur la richesse selon Montaigne. Et un grand merci notamment, Philippe Deuzan, de vous être levé à l'aube pour nous. Je rappelle que vous étiez en direct depuis le Colorado. Merci à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Marguerite Caton, Aliette Ovine, Paloma Soria Brown, Léa Sabourin et Thibaut Affring, à la réalisation Véronique Villa, à la technique aujourd'hui Inès De Bruyne.
Just make the liquor flow. Pale yellow. As my heart races, I wanted you to know. I will rise again, slow.
On se quitte avec Pale Yellow, le dernier titre de Woodkid. Demain, l'innovation est-elle le moteur de la croissance? On posera la question au sociologue Norbert Alter et à l'économiste Dominique Forêt. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.